Seigneur, je te prie aujourd'hui que tu puisses encore te manifester, Seigneur, en confirmant ta parole par des convictions qui vont se mettre dans le cœur, qui vont s'implanter dans les cœurs. Et je prie, Seigneur, que ta parole soit inspirée par le souffle du Saint-Esprit et qu'elle puisse nous rejoindre dans nos besoins et que nous puissions être transformés, changés, que nous puissions nous aligner sur ta parole aujourd'hui. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais aujourd'hui commencer une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Attention, danger ». Attention, danger. Et nous avons besoin, comme souvent nous venons dans l'église le dimanche, entre autres nous désirons avoir un temps de tranquillité, un temps de paix, un temps pour se faire du bien. Mais ce matin, peut-être, c'est exactement le but que le Seigneur a pour nous. Mais aussi, il aimerait nous interpeller, peut-être même remuer, toucher des points qui sont sensibles et qui sont des choses qui vont forcément nous déranger un peu. Car la parole de Dieu est là pour nous exhorter. C'est aussi un culte d'exhortation, pas seulement d'encouragement, mais aussi d'exhortation. Je voudrais lire avec vous un premier texte dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. Où il est dit ceci, Éphésiens 4, 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Ce texte a été écrit à l'église d'Éphèse, qui était une grande église, une bonne église et une église spirituelle, où il est question de ce thème du mensonge. Ce sera mon thème, le mensonge. La parole de Dieu nous dit donc, renoncer au mensonge. Je poursuis dans Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres. Et puis, un troisième et dernier texte d'introduction. Deutéronome chapitre 5, verset 20. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. C'est le neuvième commandement des 10 commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Le mensonge. Et ce sera une étude, on va dire, un partage biblique sur deux points. Tout d'abord, le premier point, c'est combattre le mensonge. Combattre le péché du mensonge. Et le deuxième point sera refuser l'esprit du mensonge. Refuser l'esprit du mensonge. Nous savons tous que le monde est rempli de mensonges autour de nous et nous sommes confrontés à prendre acte de mensonges en permanence. Mais en même temps, le monde n'aime pas les menteurs. Le monde n'aime pas les tricheurs. Que ce soit dans le monde sportif ou en politique, par exemple, un politique repris par ses anciens dossiers doit faire profil bas et l'avoue dans les médias, je n'ai pas dit toute la vérité. Est-ce un mensonge ou pas de mensonge? Une vérité, une demi-vérité? Et si dans un monde politique, on fouille dans la vie du candidat, cherchant avidement pour voir s'il n'y a pas une tricherie, un mensonge, ou afin de le disqualifier, eh bien, si on regarde de si près dans le monde public, à combien plus forte raison, dans l'Église, la maison du Seigneur qui est l'appui, la colonne de la vérité, à plus forte raison dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, le mensonge doit être traité avec rigueur, avec rigueur. Il doit être effectivement, comme dit Paul aux Éphésiens, il doit être abandonné, il faut renoncer, il doit être confessé, il faut qu'il y ait une libération avec le pardon, bien sûr, reçu, mais aussi des œuvres dignes de repentance. Ça veut dire quoi? Des œuvres dignes de repentance. Ça veut dire que Jésus, qui est allé vers cette personne qui avait besoin de pardon, il va lui dire, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Et si nous parlons aujourd'hui de mensonge, c'est parce qu'il y a une vérité. Il n'y a pas de mensonge s'il n'y a pas d'abord une vérité. qui est touché par le mensonge. Et la Bible nous dit quelque chose d'extrêmement important que nous devons connaître et que nous connaissons, mais que nous devons retrouver comme une nouvelle révélation dans nos cœurs, c'est que Jésus est la vérité. Non seulement Jésus dit des vérités, Jésus annonce la vérité, mais Jésus est la vérité. C'est lui la référence. C'est lui la référence. Il est le témoin véritable selon Apocalypse 3, 14. Et en contact avec la vérité, le mensonge se démarque et il est dévoilé. Donc, cette prise de position radicale, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain est de mise pour l'Église du Seigneur Jésus. C'est vrai, il faut le dire, il est difficile de vivre dans un monde compliqué, il est difficile de vivre toujours en permanence dans la vérité. Je me souviens d'un chrétien qui ne pouvait plus garder son emploi, il a donné sa démission, parce que simplement sa conscience ne lui autorisait plus de poursuivre son emploi, parce que le mensonge faisait partie des objectifs financiers à atteindre. Le mensonge servait à faire du chiffre. Il ne pouvait plus collaborer, il ne pouvait plus travailler avec cela, et il a donné sa démission parce que sa conscience avait perdu la paix à cause de cette implication dans un monde de mensonges. Je pense aussi à bien des personnes qui ont un poste de secrétariat et qui doivent se débattre avec ce même genre de questions, et leur conscience leur dit que faire, comment réagir lorsqu'elles doivent répondre au téléphone. Ben écoutez, le patron n'est pas là, alors que le patron, en réalité, a simplement demandé qu'on dise qu'il n'est pas là, mais en réalité, il est bien présent. Que faire face à des réponses mensongères? Dans l'Église, il est aussi question de cette infiltration du mensonge, parfois. Alors que nous devons être libérés du mensonge, nous devons renoncer à toute forme de mensonge. Pourtant, dans la parole de Dieu, il est question que le mensonge va insidieusement s'introduire dans l'Église. Il est question des faux prophètes qui sont de soi-disant des messagers de Dieu, qui donnent un message inspiré soi-disant, et il n'est pas seulement question une fois de temps en temps, mais il est question de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, 10 fois au moins, des faux prophètes. Écoutez encore ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apôtre Paul va poursuivre dans cette lettre qui parlera beaucoup du retour de Jésus. Il va dire que l'apparition de cet impie dont il est question, c'est l'Antichrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Même des prodiges, des signes seront teintés, imbibés, marqués par le mensonge dans l'Église ou dans l'œuvre de Dieu. Combien plus forte raison devons-nous avoir du discernement et voir clair dans ces eaux troubles-là? Le mot mentir est facile à comprendre, il veut dire en grec pseudes, dont vient le mot pseudo. Ça veut dire faux, trompeur. C'est déformer volontairement avec ruse la vérité dans le but de tromper. Et on est souvent confronté à cette tentation. Parmi les tentations, certainement que le mensonge est une des plus courantes et parfois des plus difficiles à laquelle il faut résister de manière continuelle. Certains me disent, mais un peu de triche est normal. De toute façon, on n'a qu'à demander pardon, Dieu pardonne aussi. On prend le mensonge à la légère. Et puis d'autres disent, mais j'ai utilisé un peu de triche, un peu de mensonge, parce que je défends une bonne cause et c'est pour cela que je ne dis pas toujours toute la vérité. D'autres disent, j'ai abîmé la vérité, j'ai tronqué la vérité parce que j'avais besoin d'obtenir plus de résultats. Et pour ne pas être rejeté, je vais augmenter mes valeurs. Je vais, quelque part, pour mieux me vendre, je vais exagérer. Je vais augmenter mes valeurs de manière malhonnête pour obtenir un poste. En ce qui concerne le mensonge, il y a mensonge et mensonge. Les enjeux sont parfois très différents. Je prends un exemple. pour se sortir d'affaires, le téléphone sonne et quelqu'un dit « Alors, tu vas venir demain soir ?» Et comme je n'ai pas envie de venir, je vais dire peut-être « Non, non, je ne peux pas venir demain soir car j'ai autre chose. » Et puis, en réalité, vous n'avez rien, mais vous allez vite, vite inventer pour mettre du contenu à cette autre chose. C'est un mensonge. Par contre, si, c'est un mensonge d'une certaine catégorie, on va dire, par contre, si vous déposez un faux témoignage devant le tribunal qui attend de vous une parole de vérité et un témoignage authentique, et que vous mentez par faux témoignage, alors c'est grave. Ou alors, si vous cherchez à nuire par mensonge pour soutirer de l'argent à quelqu'un, c'est de l'escroquerie. Là aussi, ce sont des choses beaucoup plus graves. Donc, il y a différents types de mensonges. Et j'ai reçu, je dois dire, quelquefois des confessions de personnes qui étaient tellement tourmentées parce que des mensonges très lourds étaient cachés dans leur cœur. Ils n'osaient pas en parler, ils avaient tellement honte. Et cela avait porté à conséquence, je pense, à cette personne qui avait menti à son assurance suite à un accident qui a été très long, dont la prise en charge médicale a été très très longue et très coûteuse. Mais à la base, quand il a rempli le rapport, eh bien, il a fait un faux rapport. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il ne pouvait plus supporter ce mensonge dans sa vie. Il ne dormait plus, il était tourmenté jour et nuit. Ce mensonge le poursuivait jusque dans sa chambre à coucher. Et sa conscience tourmentée a été vraiment le déclencheur pour avouer ce mensonge et ensuite prendre des mesures pour rectifier ce qu'il fallait. N'oublions pas, un gros mensonge, un jour, a commencé par un petit mensonge pour devenir habitude de mensonge. Et certains en font carrément un sport et ils mentent comme ils respirent. Et on connaît cette maladie qui s'appelle la mythomanie, qui est cette invention au point que la personne ne sait même plus elle-même parfois faire la différence entre le mensonge et la vérité. Elle est carrément dans un monde imaginaire. Certains arrivent à faire totalement taire leur conscience et ils arrivent à reprogrammer pour s'adapter au mensonge, pour l'accepter comme sans être troublé. Mais mes amis, j'aimerais vous dire, si vous fonctionnez sur ce registre, ne dites pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous convaincre pour que nous puissions abandonner le mensonge, renoncer à cela et parler selon la vérité, car Jésus est vrai, Jésus est le témoin véritable, il est la vérité. Il veut que nous vivions dans la vérité. Lorsque nous regardons l'histoire de la première Église dans Actes chapitre 1, 2, 3, 4, 5, lorsque nous arrivons au chapitre 5, nous voyons de quelle manière le mensonge a été traité par Dieu lui-même dans l'Église, dans la première Église. Et vous voyez, lorsque Ananias et Saphira, qui s'étaient mis d'accord pour tricher entre eux, personne ne le savait sauf eux-mêmes, et le don de révélation qui était dans Pierre, qui a mis à jour ce péché de mensonge, il va dire « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit ?» Et nous savons que ces deux personnes sont mortes sur le coup par le jugement de Dieu. Que se passerait-il dans nos églises si le Seigneur commencerait à nous traiter de la sorte? Et parfois, je dois le dire, je sens dans certains entretiens, la personne ne dit pas toute la vérité. Le problème est ailleurs. Elle ne dévoile pas certaines choses et on le sent, il y a quelque chose qui n'est pas mis à jour, quelque chose qui n'est pas dévoilé et le problème ne peut pas être résolu parce que le mensonge n'est pas mis sur la table, il n'est pas dévoilé pour être complètement purifié, nettoyé et délivré. Dieu ne veut pas confondre le menteur, mais il voudrait que le menteur lui-même avoue son mensonge. David a compris cela lorsque, dans ce grave problème de péché avec Bathsheba et le meurtre sur le mari de Bathsheba, Uri, il va être confondu et convaincu tellement profondément par le Saint-Esprit qu'il va dire dans le psaume 51, et vous trouvez ça au verset 8, « Car David souffre des conséquences de son péché et demande que la vérité soit au fond de son cœur. » Seigneur, que la vérité soit au fond du cœur, au fond du cœur. Pas juste dire la vérité, mais que nous soyons habités par un esprit de vérité, par une mentalité de vérité, par une habitude de vérité, et non pas le contraire. David voulait cela. Est-ce que nous le voulons aussi aujourd'hui? Quel est le regard de Dieu sur le mensonge? Lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 5, nous voyons ce qui se passait en Israël. Nous voyons ce qui se passait en Israël, comment la loi lévitique, la loi de Moïse, traitait, demandait au menteur de résoudre son problème. Nous lisons à partir du verset 20, chapitre 5, Lévitique 5, verset 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une valeur remise en main ou d'un vol, ou bien en commettant une extorsion envers son compatriote, en niant avoir trouvé un objet perdu, ou en faisant un faux serment au sujet de l'un de tous les péchés que l'homme peut commettre, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il rendra l'objet qu'il a volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il le restituera dans sa totalité, y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. » Il amènera au sacrificateur, à cause de sa culpabilité envers l'Éternel, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation comme sacrifice de culpabilité. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé ou lu ce texte, mais imaginez qu'en cas de mensonge, vous voulez réparer les choses. Eh bien, la loi de Moïse demandait simplement d'ajouter une amende, d'ajouter un cinquième, donc 20% de la valeur extorquée, volée, même d'un objet qui avait été perdu, qui n'a pas été restitué. On devait rajouter quelque chose. Pourquoi ? Parce que la loi est pédagogique. La loi est pédagogique, elle est là pour nous enseigner de ne pas recommencer. Et lorsque vous avez vraiment senti passer l'erreur de cette manière et que vous avez restitué, mais vous avez compris qu'il faut rajouter quelque chose, vous avez donc une perte de 20% de votre propre fortune pour restituer, eh bien, vous comprendrez que la leçon, elle va rentrer. Vous n'allez plus recommencer. Donc, Dieu nous dit, il faut que le mensonge soit traité de cette manière. Mais ce n'est pas tout. Regardez dans Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Dans ces quelques versets, sur les 7 choses que l'Éternel a en horreur, vous avez 2 fois la question du mensonge. La langue menteuse et celui qui dit des mensonges. Proverbe 12, verset 22, là, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. En horreur à l'Éternel. Proverbe 30, verset 7 et 8, je te demande 2 choses avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Frères et sœurs, il faut renoncer. Renoncer au mensonge parce que Dieu déteste le mensonge. Le regard de Dieu sur le mensonge est différent du nôtre. Remarquez qu'il n'est pas question de petits ou de grands mensonges. Il est question de mensonges. Il n'est pas question d'être délivré du mensonge. Certaines personnes veulent être délivrées du mensonge. Mais la Bible dit « renonce au mensonge ». Il faut que tu passes par une repentance et après, on peut briser les liens. Comment ne pas encore ajouter d'autres textes courtement? Dans l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, lorsque tout à la fin il est question de ces jugements, il est question du mensonge à 3 reprises. Apocalypse 21, 8, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Un peu plus loin, verset 27, il n'entrera chez elle, donc dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Et au chapitre suivant, verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Le Seigneur souligne cela. Il souligne que le mensonge n'a aucune place dans la pureté du ciel, dans notre avenir. Il n'y a pas de place. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge, et comme nous l'avons dit dans le Deutéronome, dans les 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Maintenant, mon deuxième point. Alors que nous avons compris que le péché du mensonge doit être traité de manière radicale, nous voulons rajouter à cela qu'il y a l'esprit de mensonge. Quelque chose de subtil, quelque chose de mauvais, quelque chose qui vient et qui est porté par le souffle de l'enfer, se trouve derrière le mensonge. Et Jésus va nous le dire dans le chapitre 8 de Jean. Au verset 44, il va dire, en parlant des pharisiens, de ses opposants permanents à son ministère, qui voulaient finalement qu'il disparaisse de la scène, ils voulaient sa mort. Il va leur dire, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il parle de son propre fond. Il ne peut pas dire la vérité. Il se plaît. Il est le champion du mensonge. Il sait inspirer le mensonge. Il sait conduire les choses pour que le mensonge soit omniprésent partout. Nous ne parlons pas de la pratique du mensonge à laquelle nous renonçons, mais ici, nous voulons parler maintenant de la foi que certains chrétiens donnent au mensonge du diable et à l'esprit de mensonge. Certains ajoutent la foi, certains ajoutent de la crédulité, tout comme dans le jardin d'Éden. Tiens, dès les premières pages de la Bible, nous voyons le père du mensonge agir dans la subtilité du jardin d'Éden. Et dans ce monde merveilleux et parfait, eh bien, il a réussi à donner du discrédit à la parole de Dieu. Et il a suggéré le mensonge, il a suggéré l'incrédulité, le doute. Et depuis, son travail se fait sans relâche, de manière subtile et directe, pour déformer la vérité, pour annuler la parole de Dieu, pour semer le doute, pour contredire ce que Dieu dit et affirme. Il cherchera à vous faire avaler ses mensonges jusqu'à vous lier par ses mensonges. Il veut qu'un maximum de mensonges, de ses mensonges, soient reconnus comme vérité. Et il veut même nous faire croire qu'il n'existe pas. Résistons-lui d'une foi ferme, car rien n'est capable de résister à la vérité. C'est la vérité qui va contredire le mensonge, la vérité de la parole de Dieu qui va contredire le mensonge. Et pour vous faire réaliser que même des gens spirituels ou des gens avertis peuvent se laisser piéger par l'esprit de mensonge, je prends juste deux exemples très courtement sans les détailler. À Gédéon, il a réussi à faire croire qu'il était le plus petit, le plus pauvre, le plus faible et que la condition d'Israël ne changera jamais. Alors que Dieu disait sur Gédéon, « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Ça, c'est la parole de vérité. Alors que la parole de mensonge qu'il avait avalée, qu'il avait cru et qu'il se répétait à lui-même, faisait de lui une pauvre victime qui ne bougeait pas, qui ne s'en sortait pas. Regardez encore l'armée d'Israël, qui est tenue en échec par un seul homme qui s'appelle Goliath. Et par la bouche de Goliath, ces mensonges viennent paralyser littéralement toute l'armée d'Israël. Ces mensonges qui disent « Vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien contre moi, vous n'êtes que les esclaves de Saül. » Et ces mensonges ont tellement eu de l'impact sur toute cette armée qu'elle est restée bloquée. Voyez-vous, les mensonges du diable, lorsque nous commençons à les croire, elles prennent de l'importance et elles nous bloquent, elles nous paralysent, elles nous empêchent de grandir, d'aller de l'avant et de prendre des victoires. Elles nous empêchent de développer notre vie spirituelle. C'est pourquoi nous devons faire face à l'esprit menteur qui cherche à remplir la tête et les pensées des chrétiens pour leur faire croire l'opposé de ce que déclare la parole de Dieu, de ce que déclare la parole de Dieu. Alors que ces mensonges sont vieux comme le monde, sont vieux comme le monde. Avons-nous remarqué combien d'arguments du diable sont contradictoires, toujours les mêmes, ils n'inventent rien de nouveau. Par exemple, quand la conscience de quelqu'un commence à se faire entendre, il rassure, mais tu n'es pas si mauvais que ça quand même. Mais que le même homme se trouve écrasé sous le poids de ses fautes, il dira, tu es trop mauvais pour que Dieu te pardonne. Ou encore, au jeune, Satan va suggérer, tu es beaucoup trop jeune, profite de la vie, tu penseras à Dieu plus tard. Tandis que la personne devenue plus âgée, maintenant tu es trop vieux pour changer d'avis. Après la mort, les uns disent, par mensonge, on verra bien. Tandis qu'aux autres, le mensonge affirmera, après la mort, il n'y a plus rien. Ou encore, le diable désigne les croyants. Tu vois, regarde ces chrétiens. Ils sont comme sur leurs petits nuages, ils sont déconnectés d'avec le monde. À d'autres, il dit, tu vois bien que ces chrétiens ne sont pas meilleurs que toi. Alors, ces contradictions sont omniprésentes dans notre monde. Il faut dévoiler ces choses. Il faut réellement réaliser que ces choses doivent cesser dans notre vie. Car par les mensonges, Satan veut en fait nous contrôler. Si nous laissons prise à ce message du diable, eh bien nous finirons par être des esclaves. Et si tu es un esclave, alors ta vie est contrôlée par un maître qui veut te dire « tu ne changeras jamais, tu n'as jamais été appelé ». Tu n'es manifestement pas béni et que sais-je, il peut ajouter encore mille autres choses pour nous maintenir dans l'esclavage. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si Satan veut faire cela, s'il veut te contrôler pour t'éloigner de la communion fraternelle, pour t'éloigner de la communion avec Dieu, alors tu peux vaincre cet esprit de mensonge par le contact avec la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Lis la parole, médite la parole, proclame la parole. Laisse la parole avoir de l'effet sur ta vie. La vérité doit être opposée au mensonge. Si tu ajoutes foi à mensonge, ça devient puissance de mensonge. Ça devient une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça devient une forteresse de raisonnement. Cesse de donner du poids à ces mensonges du diable qui t'enferment comme dans une forteresse. Et qui ouvre la porte à l'ennemi. La seule façon de vaincre le mensonge, c'est de le remplacer par la vérité. C'est l'antidote, c'est le sérum qui libère et qui guérit. Remplace le mensonge qui est dans ta tête et qui ne te lâche pas, qui t'empêche de progresser, de saisir les victoires. Remplace cela par la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. L'esprit de vérité nous est donné. La parole de Dieu est la vérité. Je voudrais simplement dire trois mots clés qui commencent tous par la lettre A, la même lettre A. Trois mots clés qui, un petit peu mémotechniques qui vont nous aider à ne pas oublier ces grandes vérités tellement importantes. Premièrement, pour contredire le mensonge, il faut la vérité, il faut premièrement que tu aime la vérité. Aimez la vérité. Dites avec moi, aimez la vérité. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, il est dit, nous l'avons déjà lu tout à l'heure, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions d'iniquité pour ceux qui périssent. Et maintenant, écoutez bien, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous devons d'abord aimer la vérité. C'est le tout premier pas. Le deuxième pas, il nous faut accepter la vérité, proclamer et déclarer toutes les vérités de la parole sur notre vie. Et je donne souvent des paroles de proclamation sur une feuille que j'ai sur une feuille à des personnes qui ont besoin de déclarer à haute voix pour faire face et contredire ces mensonges qui ont empoisonné leur vie, qui ont détruit leur vie, qui ont paralysé leur marche chrétienne. Pour contredire ça, eh bien, Il y a des pages et des pages de versets sélectionnés qui peuvent nous aider, les paroles de proclamation. Il faut accepter la vérité, la déclarer, la proclamer devant vous-même, à votre âme et face au menteur. Face au menteur. Il y a des personnes, voyez-vous, qui ne viennent plus au culte parce qu'ils savent que quand ils viendront au culte, eh bien, il y aura quelque chose qui va les déranger, qui va les remettre en question. Et pour ne pas être remis en question, ils ne viennent pas au culte. Écouter la parole de Dieu. Préfère rester chez eux, rester à l'écart, sous une espèce de pseudo-protection de leur conscience, mais ils ne sont pas libérés et ils doivent faire attention de ne pas jouer avec le feu. Donc le premier mot, c'est « aime la vérité ». Le deuxième mot, c'est « accepte la vérité ». Le troisième mot, c'est « avance dans la vérité ». Cela veut dire « vie vraie ». L'apôtre Paul va dire, dans Actes 24, 16, il va dire « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et devant les hommes. Il voulait que sa conscience ne l'accuse pas, ne lui fasse pas de reproche, et qu'il soit vraiment dans la lumière, dans la clarté, dans la netteté, dans l'intégrité devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire vie vraie. Il faut que ta vie parle. Il faut qu'elle parle par la droiture, par l'authenticité. Il faut que ta vie parle par la cohérence, par la sincérité. Et cela va te donner beaucoup d'assurance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui nous éclaire par sa vérité. C'est lui qui nous habite. Il est la vérité. Et lorsque le mensonge cherche à prendre place, par son esprit et par notre conscience, il va nous le montrer afin que nous puissions, un, renoncer au mensonge, clairement. Ne priez pas pour recevoir une délivrance, mais priez d'abord pour que Dieu vous donne la capacité de vous repentir clairement de toute forme de mensonge. Priez ensuite pour avoir du courage pour le changement. Il faut du courage. Parfois, sortir d'un mensonge, ça peut coûter quelque chose, mais il vaut mieux que l'on paye le prix maintenant que de payer plus tard un prix terrible, celui de la perdition. N'oublions pas les textes de l'Apocalypse qui parlent des menteurs. Et je termine par une histoire. En famille, tout se passait bien. En tout cas, dans un premier temps. C'est la personne qui parle à la première personne du singulier. D'ailleurs, ma venue au monde était un exaucement de prière. Mais comme dans toute famille, il faut trouver sa place. Et là, le problème a commencé déjà assez tôt, car il y avait de la concurrence. Mon frère, légèrement plus âgé, ne me laissait que peu de place. Alors, c'est par subtilité et par petits mensonges ajoutés les uns aux autres que les choses se sont gâtées de plus en plus. Les tensions devenaient vives de temps en temps. Et voilà que les années ont passé. Habitué au petit mensonge qui est devenu un gros mensonge, et sans que ma conscience me donne des nuits blanches. Voilà qu'arrive un jour où tout a explosé autour de la table familiale. J'ai dû partir, laissant derrière moi un tas de débris, des relations conflictuelles, tous azimuts, et me voilà tout seul avec mes mensonges. J'ai tenté de refaire ma vie loin de la famille, le plus loin possible, mais vous savez, une conscience, il est difficile de mettre une distance avec sa conscience. Ma conscience m'accompagnait toujours, elle était là, tout près. Mais bon, j'ai poursuivi sur la lancée et de mensonge en mensonge, parfois gros comme une montagne, mais tout le monde n'y voyait que du feu. J'ai eu des résultats impressionnants, mais un jour, j'ai entendu la voix de Dieu qui disait « Mon ami, tu n'es pas en paix avec ta famille, retourne les voir. » Le monde s'est écroulé. J'ai répondu « Jamais !» Mais la voix insiste, « Retourne !» Pour finir, j'ai craqué, j'ai obéi. Je suis parti sur le chemin du retour, mais mes jambes n'avançaient plus à un moment donné. Pourtant, j'avais une bonne condition physique. Je me suis arrêté tout seul, comme arrêté par une main invisible. Et là, je sens que quelque chose va se passer. Je n'arrive plus à m'endormir. La lutte intérieure est là, elle est terrible, je n'en peux plus. Je craque. Et là, dans ce combat, j'avoue enfin à Dieu ma tendance permanente au mensonge. Oui, c'est ma nature de menteur que j'avoue au Dieu vivant. Car voyez-vous, je m'appelle Jacob, trompeur, que Dieu va transformer dans ce combat en bénédiction pour me dire, tu ne seras plus Jacob, trompeur, mais tu seras Israël, vainqueur. Vainqueur. Jacob a été transformé dans son être profond, brisé dans sa chair, mais transformé pour être un homme différent qui a pu rencontrer ce qui restait de sa famille. Et la vie de cette famille a été changée. L'avenir a été changé parce que le mensonge a été délivré, extirpé de sa nature même. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce qu'il fait par le Saint-Esprit. Il veut nous délivrer. Il veut nous délivrer. Il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans cette prière où nous voulons prendre position sur les deux points que j'ai mentionnés dans ce message, que j'ai traité dans ce message, certes incomplet, mais pourtant de tout notre cœur, je sais que ce message doit être donné. Père céleste, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis et je prie, Seigneur, que toute forme de mensonge puisse être mise en lumière aujourd'hui. Seigneur, que je ne sois pas celui qui cache les transgressions et les mensonges, qui me cherche à m'excuser, à m'esquiver en permanence, mais que je puisse les mettre en lumière pour qu'ils soient enlevés de ma vie par la puissance du sang de Jésus qui purifie de tout péché. Seigneur, je te remercie de ce que tu agis aujourd'hui, en ce moment même. Seigneur, je te recommande mes frères et sœurs et moi-même, chacun, que nous puissions, comme dit ta parole, rompre avec tout mensonge, renoncer à tout mensonge et parler vrai face à notre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et Seigneur, je te prie que ceux qui sont embourbés dans l'esprit de mensonge, qui ont cru, qui ont avalé tant et tant de mensonges du diable, je prie que tu leur donnes de se lever, Seigneur, aujourd'hui, pour aimer la vérité, pour accepter, Seigneur, cette vérité, pour avancer dans cette vérité, pour marcher dans cette vérité, pour vivre vrai. Je prie que la vérité, Seigneur, que l'Église soit la colonne et l'appui de la vérité, que la vérité puisse marquer nos vies et que nous fassions une différence. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je sais que tu vas agir maintenant dans la vie de tous ceux qui font cette prière sincèrement avec moi au nom de Jésus. Amen.